Merci Benoît et bienvenue en ce 17 janvier. C'est la première fois en 2021 que j'ai l'occasion de parler à toute l'Assemblée. Je vous souhaite une année remplie de Jésus, remplie de Christ, une année remplie de ses grâces et que vous en soyez conscients que vous puissiez glorifier Dieu en 2021. Naturellement, ce matin, comme notre frère Benoît l'a dit, on continue notre série sur 1 Corinthiens. Nous sommes rendus dans 1 Corinthiens au chapitre 7 et on fait ce matin les 9 premiers versets et je l'ai intitulé « Les dons du célibat et du mariage ». On va lire la parole, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Que Dieu bénisse sa parole. Permettez-moi de répéter dans la version d'Harvey, le verset 7b de ce que l'on vient de lire. Chacun a son propre don de grâce de la part de Dieu, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et j'aimerais compléter cette introduction avec 1 Pierre 4:10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Paul entre dans le chapitre 7, la section où Paul répond aux questions des Corinthiens qui ont été écrites avant. On n'a pas les questions. Sur différents sujets. Et le premier sujet abordé, c'est le mariage et le célibat. Ce sont des sujets importants à traiter parce que notre société, comme celle de Corinthe, du temps de Paul, a réussi à pervertir la valeur, l'utilité et la compréhension du mariage et du célibat. Nous avons une vision mondaine du sujet et nous avons celle de Dieu. Et nous devons remercier le Seigneur qui nous est donné, qui nous a montré la réalité de sa création. Car le mariage, c'est réellement sa création. Paul, ici, ne donne pas un cours de préparation au mariage. Il nous parle du fondement, le principe qui fait fonctionner le mariage et le célibat selon Dieu. Il désire redonner la noblesse au célibat et remettre les pendules à l'heure face au mariage. Ce que nous pouvons dire pour l'instant, c'est que Dieu aime, utilise, bénit et fait grandir les enfants dans la foi, qu'ils soient mariés ou non. Dieu désire pour les uns comme pour les autres que l'Évangile soit annoncé, que nous devenions matures, que nous vivions le contentement dans l'état où nous sommes présentement. Notre spiritualité, ainsi que toutes les grâces que je viens de mentionner, ne dépendent pas de notre état civil. La toile de refond qui ressort dans le chapitre 7 est le contentement et le don de soi. Autant dans le mariage que dans le célibat. À l'exemple de notre divin maître qui s'est donné à Dieu pour nous, Jésus n'a jamais été marié. Son ministère ne l'a jamais emmené là. Et pourtant, le contentement et le don de soi a été une évidence dans sa vie. Paul dresse un tableau des avantages et des préoccupations du célibataire et de ceux qui sont mariés. Il écrit qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher une femme. Le terme « bon » ici a le sens d'être honorable, noble, de bonne valeur morale. Paul utilise le mot, le terme « bon » comme quelque chose de général, mais il serait, le mot « avantageux » serait plus dans l'esprit de Paul. Paul utilise un mot de la même nature en grec qui est utilisé dans chapitre 6, verset 12, le mot « utile » est la même nature que le mot « bon » qui est là. Et au chapitre 7, verset 35, le mot « intérêt » ou « avantage ». C'est la même nature, c'est le même mot. Par l'utilisation de ce mot, M. Godet disait qu'il déclare, Paul déclarait, que d'être et d'agir comme un célibataire est absolument convenable et digne. J'espère que je ne vous apprends pas, que je vous apprends rien lorsque je dis que Dieu n'est pas d'accord avec les relations sexuelles avant le mariage ou en dehors du mariage. C'est inconvenant, désavantageux et indigne de la volonté de Dieu. La plupart des chrétiens savent cela, soit parce qu'ils l'ont lu ou même dans leur conscience, ils le savent. Mais qu'en est-il de l'application de cette connaissance? Certains sondages vont dire que 60% des chrétiens célibataires ont une vie sexuelle active. On doit se rappeler que l'Église de Corinthe était influencée par le rythme de vie immorale de leur société. C'est pas dur de pouvoir se l'imaginer. Notre société est corinthianisée, si on veut, comme du temps de Paul. Et comme chrétiens, nous sommes portés à tomber aussi sous cette influence. Notre seule influence devrait être la vérité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on doit en être revêtu de cette vérité-là. Elle doit non seulement nous habiter, mais elle doit nous couvrir. Elle doit couvrir nos pensées. Elle doit couvrir nos manières de faire, nos manières d'établir les choses. Paul, au premier verset, touche la valeur du célibat. Et il y revient, et nous y reviendrons aussi au verset 7, du verset 7 jusqu'au verset 9, et aussi à la fin de ce chapitre-là. Dans une autre prédication. Le pronom « toutefois » que l'on retrouve au verset 2, au début du verset 2, nous dirige vers un autre sujet. Paul enseigne les Corinthiens sur le principe fondamental du mariage, à base. Le principe sur quoi le mariage s'appuie pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai été ébahi de constater comment Dieu voit la sainteté d'une personne mariée. C'est plus qu'être juste, être fidèle à son épouse. C'est plus que ça. Quelqu'un un jour a fait un compliment à mon épouse. Il lui a dit, « Tu n'es pas une personne qui a de grandes connaissances, mais je constate que ce que tu sais, ça devient important de l'appliquer dans ta vie. » C'est un beau compliment. C'est un compliment qui m'a resté. Et je le constate encore aujourd'hui. J'aimerais ici, à ce moment-ci de la lecture de la Bible et de la prédication, j'aimerais prendre un temps pour se placer devant le Seigneur dans une prière, une courte prière. Seigneur Dieu, permet que cet enseignement ce matin puisse ne pas tomber dans une lettre, que ce ne soit pas une lettre morte, mais que ce soit quelque chose de vivant dans mon cœur, que je ne cherche pas juste à savoir, mais que je cherche à appliquer. Fais en sorte, Seigneur, et que déplace mon cœur, bouge mon cœur, Seigneur, pour que je ressemble à cet homme qui a bâti sa maison sur le roc, qui est devenu inébranlable. Permets, Seigneur, que je puisse appliquer la parole de Dieu comme tu me le demandes. Amen. Du verset 2 jusqu'au verset 5, on doit remarquer la parfaite égalité qui existe en matière de couple. Deux personnes avec des rôles différents, des besoins différents, des désirs différents, mais les recommandations à un sont les mêmes, sont identiques aux recommandations pour l'autre. L'homme et la femme dans une parfaite égalité. Des rôles différents, mais parfaitement égaux. Et déjà au verset 2, un seul homme avec une seule femme. La polygamie devait être une coutume chez les Corinthiens et un questionnement chez les chrétiens de Corinthe. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que le fait de simplement avoir une seule femme ou un seul homme. Paul, ici, il parle de situation d'intimité. Il ne doit pas avoir d'intrusion dans le couple, comme la famille ou la belle-famille. Même les enfants ne doivent pas avoir d'accès aux choses qui font aux choses du couple, aux occupations du couple. Si eux n'ont pas accès, imaginez un étranger ou une étrangère. Jamais un étranger ou une étrangère ne devrait avoir accès aux occupations du couple. Dans le verset 3, il y a encore égalité. Que le mari rende et que la femme agisse de même. Il y a encore égalité. Dans le terme « rende », qui vient de deux mots, « donner de », est défini comme une obligation physique et spirituelle. C'est une obligation. Et qu'est-ce qu'on doit rendre? C'est l'affection. Un état d'esprit, des pensées, des paroles, des actions pour le bien de l'autre. L'obligation de rechercher le bénéfice de l'autre. Donner de sa personne de manière sacrificielle pour remplir les besoins, les pensées et les désirs de l'autre. Lorsque deux personnes passent par le lien du mariage, ils ne viennent pas acquérir un nouveau compagnon. Ils viennent de se donner l'un à l'autre. Si vous allez vers le mariage en pensant que vous en retirerez quelque chose, vous avez une vision charnelle et mondaine du mariage. La vision spirituelle est de donner et même de se donner dans le mariage. Voilà pourquoi le titre, le don du célibat et le don du mariage, dans le sens que nous sommes doués par Dieu pour le mariage ou le célibat. Le verset 4 accentue un peu ce don. Et je parlais tout à l'heure de manière sacrificielle. Eh bien, le mot « don sacrificiel » est exprimé ici dans ce verset-là, verset 4. La femme, comme l'homme, encore le principe d'égalité, par le fait que les deux ne se possèdent pas entièrement leur corps, c'est vraiment un sacrifice, c'est vraiment sacrificiel. Mais ici, Paul ne parle pas d'abus ou de contrôle, il ne parle pas d'abuser ou de contrôler l'autre. Ce n'est pas le but de Paul. Mais dans le contexte du verset précédent, il parle d'être dévoué à satisfaire Dieu en mettant notre corps au service de notre conjoint, pour son bien-être. J'avais écrit pour son plaisir, mais c'est vrai aussi. Nous devons être des vaisseaux de service pour notre conjoint. Cela ne devrait pas être une source de conflit, mais un geste d'amour, un don volontaire pour la joie et le bon sentiment de l'autre. Sans rien attendre de l'autre. Et ça, c'est important, parce qu'on voit ça souvent. Sans rien attendre de l'autre. Sans rien demander à l'autre. Notre responsabilité n'est pas de surveiller l'autre pour savoir si elle ou lui obéit à cette règle. Notre tâche principale est de se surveiller soi-même pour savoir si je fais ce à quoi je me suis engagé comme époux ou comme épouse. Donc, l'objection de dire « moi, je ne le ferai pas tant qu'elle ne le fera pas » ou « que lui ne le fera pas » ne tient pas la route. La seule chose que vous devez faire, c'est envers et contre tout, faire ce à quoi je me suis engagé. Ça apparaît dans mon couple. Je suis moi seul responsable de mes agissements. Et c'est à Dieu que je suis redevable pour mes bons et mes mauvais comportements. Dieu va me redemander, dans ma responsabilité d'époux ou d'épouse, qu'est-ce que tu as fait? Lorsque je suis avec mon épouse, ma première préoccupation devrait être son plaisir, ses besoins. À première vue, le concept semble exigeant. Wow, t'en manques beaucoup, là. Il me semble que slack la pédale un peu, là. Se donner, se placer en disposition pour l'autre peut faire peur. Il me semble que c'est exagéré. Mais Dieu ne se trompe pas, là. Dieu n'est pas en train de demander quelque chose qui dépasse les limites humaines. Il connaît l'effet, il connaît la valeur du don et les bénédictions qui en ressortent. Et le meilleur exemple, c'est bien sûr Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 23, il dit « Aimez vos épouses, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et il va continuer au verset 29, lorsqu'il va dire « Personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Le mariage, c'est le reflet sacré de ce mystère de l'union entre Christ et l'Église. Le mariage, c'est cette image grandiose de l'union entre Christ et l'Église. L'Église à laquelle vous participez aujourd'hui, l'Église à laquelle vous êtes membre, tient debout, malgré les attaques, malgré les pressions extérieures, les pressions intérieures, parce que son futur époux s'est donné et se donne encore à elle. Et c'est ce don qui met toute la valeur dans l'Église. Sinon, on serait tout simplement un club de bridge qui n'aurait tout simplement pas le droit de se rassembler. Si cette seule obligation dans le mariage était respectée, ça serait la faillite des conseillers matrimoniaux. Le verset 5 va plus loin. Il nous dit de ne pas mettre de barrière aux besoins de l'autre. Ne tournez pas le dos aux besoins que vous devez apporter à votre premier et à votre plus important ministère, votre époux, votre épouse. Sauf à trois conditions. ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Voyez-vous encore cette égalité d'un commun accord. Il faut que les deux soient d'accord pour se priver l'un de l'autre. Que ce soit défini dans le temps, c'est une situation temporaire lorsqu'on doit revenir au couple par après. Parce qu'oubliez pas, on s'est engagé pour la mort et pour la vie, et pour la vie et pour la mort, excusez. Et s'il y a une si on arrête de répondre aux besoins de l'autre, ce n'est que pour le recueillement. Et certaines versions vont dire la prière, le jeûne, la prière, et on peut parler de choses spirituelles. J'ai besoin de temps avec mon Dieu à tous les jours. Et mon épouse aussi. Et nous sommes d'accord avec ce constat. Même au travers des enfants, du travail, des obligations, nous avons besoin d'un temps avec Dieu. J'ai besoin de prendre ce moment-là privilégié dans ma journée pour ma santé spirituelle. C'est quand le célibataire ne l'a pas. Il n'a qu'à être en accord avec lui-même. Et le temps de recueillement n'est pas un obstacle. Il peut prendre le temps qu'il veut. La responsabilité et l'obligation de plaire à une autre personne, et non seulement à une autre personne, mais à cette personne spécifiquement, peut être un véritable fardeau pour celui qui n'a pas de don de mariage. Surtout dans l'optique du texte qui précède. Le mariage n'est pas ce que j'en retire qui a de la valeur, mais c'est le don sacrificiel que j'y mets. Dieu a mis ce don dans beaucoup d'hommes et de femmes. Ce don, je dois le faire fructifier en agissant en accord avec ce que Dieu m'a donné. Sinon, le don est vide. Dans la cérémonie du mariage, il y a la robe de mariée, une très belle mariée habituellement, le cortège, les retrouvailles et tout ce qui s'ensuit, etc., etc. On pourrait en avoir longtemps à dire. Mais dans tout cela, dans tout ce qui s'est produit, peu importe que ce soit un mariage italien avec 2000 personnes, ou que ce soit un mariage très intime, il y a toujours le petit « oui, je le veux ». Très impliquant pour ceux qui le prononcent et très important pour ceux qui écoutent, Dieu compris. Dans le verset 6, Paul dit que ce qu'il dit sur le mariage n'est pas une norme, mais une concession. Personnellement, je n'aime pas la traduction du mot par condescendance. Pour moi, condescendance, ça veut dire du mépris ou quelque chose comme ça. Et ce n'est pas ce que ça veut dire. En anglais, il parle de concession et M. Darby dit indulgence. La signification de ce verset est que Paul ne fait pas du mariage un ordre pour tous les hommes. Même si Dieu disait à la création, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Il ne disait pas qu'absolument tous les hommes devaient être mariés. Beaucoup d'hommes et de femmes vont se marier et ce sera une bénédiction pour le monde. Mais il y a une concession à faire. Il y a une indulgence envers ceux qui n'ont pas le don du mariage. Le célibat est bon et honorable, comme il est dit au verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Pas si c'était juste de lui, il souhaiterait que plus de personnes soient célibataires, même que tous les hommes soient célibataires. Mais il est conscient que le seul critère qui doit être tenu en compte, ce sont les dons distribués par Dieu. Il donne les dons d'une manière, disons le célibat, et d'une autre, le mariage. Mais l'un comme l'autre n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce ne sera jamais notre état civil qui déterminera notre spiritualité. Une personne mariée n'est pas plus spirituelle qu'un célibataire et vice-versa. Nous vivons dans une société où le mariage est le but à atteindre. Beaucoup de personnes mettent un jugement sur le célibat comme une attente vers l'accomplissement de la vie de célibataire qui sera le mariage. C'est absolument faux. Et du coup, le célibat est mal compris et le célibataire est une personne à qui il manque quelque chose ou quelqu'un. Souvent, lorsqu'on rencontre un célibataire, ce qui nous vient à l'esprit, c'est de lui demander, sors-tu avec quelqu'un? C'est quand tu vas te marier? C'est quelque chose, même si on ne mentionne pas, ça nous mijote dans l'esprit. On a toujours le goût du hey, « il faut qu'il se marie », et pas nécessairement. Comment se définit le mariage? Comment définir le célibataire? Le célibat et ses facettes. Il y a le veuf, la veuve. Il y a le ou la divorcée. Il y a celui ou celle qui ne désire jamais se marier. Et celui ou celle qui est en attente de trouver la personne à marier. Mais finalement, on peut diviser les célibataires sous deux classes. La première, je me marierai jamais. La deuxième, un jour je serai marié. Pour ces deux catégories de célibataires, la seule personne nécessaire est l'accomplissement de sa vie. À l'accomplissement de sa vie, c'est Christ. Nous serons toujours seuls devant Dieu avec notre sainteté, mariés ou non. Le reste, c'est une question de choix et de circonstances. Il existe des points communs entre le célibataire et la personne mariée. La proclamation de l'Évangile pour un homme, son épouse et même ses enfants, et pour le célibataire, même implication. Je dirais même que le célibataire peut rejoindre une sphère que le couple ne peut rejoindre. Et l'inverse est aussi vrai. Le don de soi est présent dans chacun des états civils. Mais il se traduit différemment. Nous avons vu comment il se définit chez la personne mariée. Chez le célibataire, il y a d'exercer la volonté de Dieu et de se mettre au service des autres sans contrainte ou d'obligation envers une personne spécifique. Ces choix de service dans l'Église ne sont pas soumis à un accord commun. Son temps de méditation et de service est à son entière disposition. Un cœur divisé entre le conjoint et Dieu, il n'a pas ça. Ce sont les avantages non négligeables que Paul voit dans le célibat. Pour celui ou celle qui est doué du célibat, un époux ou une épouse à ses côtés serait un fardeau. Ce serait même une difficulté dans son ministère. On a demandé un jour à M. John Stott, homme de Dieu accompli et célibataire, s'il pensait un jour se marier. Et cet homme-là, il regardait son agenda et il a répondu, « J'ai aucune idée quand j'aurai le temps de m'occuper de quelqu'un. » C'est un choix qu'il a fait. Et il était heureux dans ce choix-là. Je ne voudrais pas quitter ce sujet sans parler des célibataires qui sont en attente de trouver l'âme sœur. Je comprends que vous pouvez languir après la personne pour qui vous pourriez vous donner, parce que c'est votre don. Je ne peux pas discuter des méthodes, okay? Des méthodes que vous utiliserez pour chercher l'âme sœur, la personne idéale. Le monde évolue et ce qui était bon il y a 40 ans ne suffit peut-être pas aujourd'hui. Mon épouse, moi, je l'ai trouvée dans un autobus de la Société de transport de Montréal. Ce n'est pas tout à fait l'idéal pour tout le monde. Ça a marché pour moi, mais on l'arrête là. C'est sûr que si vous cherchez votre futur époux dans les bars, dans les débits de boissons, c'est risqué. Je ne vous le conseille pas. Mais si je peux me permettre des conseils que ma barbe blanche et que l'Esprit de Dieu m'accorde, je peux vous donner ces conseils-là. Premièrement, la recherche d'une personne se fait avec la prière, en demandant à Dieu que vous soyez convaincu par l'Esprit. Dieu devrait être omniprésent dans votre recherche. Proverbe 18, 22 nous dit que celui qui trouve une femme, c'est la grâce de Dieu. Proverbe 19, 14 nous dit qu'une femme intelligente est un don de Dieu. Et Proverbe 31, 10, une femme vertueuse a une grande valeur. On s'entend que ce qui est vrai pour un homme envers une femme est aussi vrai pour une femme envers un homme. Dieu est impliqué dans le fait de trouver la personne idéale. Il est aussi impliqué dans le temps idéal que cela doit vous prendre. Deuxièmement, vous devez avoir des critères pour commencer une fréquentation. Si nous regardons la volonté de Dieu, il peut être dangereux de fréquenter une personne qui n'a pas donné sa vie à Christ. On ne sait pas si un jour cette personne fera de Christ son sauveur. Et Dieu nous prévient pour notre sanctification, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il sait que les relations amoureuses créent des liens très difficiles à défaire. Des liens qui peuvent nourrir l'âme, mais des liens qui peuvent aussi la briser. Faites attention que l'amour prenne trop de place et surpasse vos critères. Durant les fréquentations, non seulement Christ devra être son sauveur, mais il ou elle doit se laisser transformer sous l'influence de l'Esprit. Vous devriez être capable d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Vous devez la connaître spirituellement. Son implication dans sa croissance spirituelle et ses progrès dans la connaissance de Dieu doivent être évidents. Selon ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, les compromis sur ces points créent des situations très malheureuses. Le reste, l'aspect physique, le caractère, c'est à vous autres, ça vous appartient. Ça. Troisièmement, si durant les fréquentations, un doute apparaît sur un certain comportement qui est fait sans y penser, posez-vous la question, questionnez ce doute. Ne laissez pas passer ce doute comme une chose sans importance. Un comportement fait sans y penser peut révéler certaines choses. Et ça ne veut pas dire nécessairement que la personne n'est pas faite pour vous, mais vous avancerez dans votre relation en connaissance de cause, en sachant les combats et les luttes. Comme on dit, en cas de doute, consultez. En conclusion, que vous soyez un homme ou une femme mariée, un célibataire par choix ou célibataire par circonstance, notre seul vrai but sera de faire avancer le royaume et la justice de Dieu. Parce que le Père céleste est au courant de vos besoins, de vos dons. Et à travers la recherche du royaume, tout ce dont nous avons besoin va nous être donné. Et je viens de paraphraser Matthieu 6, verset 22. Et verset 23. Bien, que le Seigneur bénisse sa parole et bénisse ce temps passé à la partager pour sa gloire et pour son nom. Amen.
Alors, merci. Alors, merci Denis pour cette parole que tu nous as apportée et Ça m'a fait penser que lorsqu'on dit donner et se donner, voilà la vision du mariage, ben, quel beau verset qui nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ailleurs, on voit dans la parole que le Fils s'est livré lui-même aussi pour nous.